Radio Rythme Bleu, il est 17h45, info soir, c'est avec vous Isabelle Pelletier.
La création d'une commission d'enquête sur les liens entre des élus indépendantistes au Congrès et l'Azerbaïdjan, c'est une proposition de résolution déposée par les groupes Les Loyalistes et Rassemblement. Passation de pouvoir aujourd'hui au Congrès, Recomitant a cédé son fauteuil à Veima Falayo, élu la semaine dernière au perchoir. Une élection au Congrès qui représente un déni de démocratie pour le bureau politique du FLNKS. Il était réuni ce matin devant la presse à Dimbéa. Une phase d'investissement public pour relancer l'économie du territoire, c'est l'un des engagements du président Emmanuel Macron à Sonia Backès. Il l'a reçu une heure hier soir pour nous. Au Mont-d'Or, les habitants de la Conception quittent petit à petit le quartier en raison de l'insécurité qui règne. Le sport du football, la Fédération calédonienne présentait aujourd'hui son projet Élite Excellence. Et puis à Paris, la suite des Jeux paralympiques. Ce soir, le Calédonien Pierre Fairbanks sera engagé dans les séries du 100 mètres fauteuil. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Faire toute la lumière sur les relations qui unissent l'Azerbaïdjan et certains élus indépendantistes du Congrès. C'est le but de la commission d'enquête dont les groupes Les Loyalistes et Rassemblement demandent la création. Elisabeth Noir.
Les Loyalistes et le Rassemblement ont déposé une proposition de création de cette commission d'enquête qui serait chargée d'examiner les relations, accords et activités entre les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la République d'Azerbaïdjan, un pays dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois et qui est soupçonné de mener des actions de déstabilisation de la France, notamment en Nouvelle-Calédonie. Un pays autoritaire qui persécute notamment les Arméniens et qui est mis en cause régulièrement par les organisations internationales. Mais il a créé des liens particuliers avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, au travers notamment d'un mémorandum d'entente signé en avril dernier par Omeran Eslin, au nom du président du Congrès de l'époque, Recomitant. La commission d'enquête devra donc faire la lumière sur ces liens entre certains indépendantistes et l'Azerbaïdjan, explique Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement.
Il y a nécessité de faire toute la lumière sur les moyens qui ont été consentis par le Congrès pour mettre en œuvre ces fameux accords avec l'Azerbaïdjan, sans qu'aucun élu du Congrès, à part le président, qui a pris cette initiative, n'ait donné son accord pour qu'un tel mémorandum soit signé entre le Congrès et l'Azerbaïdjan. Quand on engage un parti politique, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, l'ancien président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Recomitant, a engagé l'institution elle-même, sans avoir à aucun moment l'aval des élus du Congrès, et sans même que les élus du Congrès n'aient été destinataires de cet accord dont nous ne savons absolument pas ce qu'il contient.
Il y a le mémorandum, mais il y a aussi le déplacement à Bakou d'une délégation d'élus calédoniens. Marilyn Sakilia, Isabelle Kalebé-Raouné, Maria-Isabella Saliga-Ludovica et le membre du gouvernement, Michael Forest, accompagnés de collaborateurs politiques. Ils ont participé au congrès des colonies françaises organisé par l'Azerbaïdjan. Là aussi, la commission d'enquête permettra de déterminer comment cela a été organisé, souligne Françoise Suvet, chef du groupe Les Loyalistes.
Il faut absolument faire toute la lumière avec cette commission d'enquête. Le contenu du mémorandum qui a été signé en avril, qui engage le Congrès, puisque personne, aucun élu n'a pu avoir accès à ce document. Le contenu, on ne le connaît pas. Même si le président Wamitan s'est engagé à nous le fournir, on ne l'a jamais eu. Et puis au mois de juillet, le déplacement à Bakou pour le Congrès des colonies françaises, le déplacement d'élus indépendantistes, et on ne sait pas comment ça a été financé. Aujourd'hui, les Calédoniens méritent qu'on fasse toute la transparence sur cette affaire et puis surtout sur l'utilisation de l'argent public. Et ça, cette commission d'enquête va permettre d'accéder à l'ensemble des informations pour faire toute la lumière.
Et pour créer cette commission d'enquête, il faut une majorité d'élus du Congrès. Les Loyalistes et le Rassemblement comptent sur le soutien des élus Calédonie Ensemble et Éveil Océanien, qui avaient eu l'occasion eux aussi de protester sur la signature d'un mémorandum entre le Congrès et la République d'Azerbaïdjan.
Cérémonie de passation de pouvoir ce midi au Congrès. Lors d'une coutume, Recomitant a officiellement cédé son fauteuil de président à Veima Falayo, élu jeudi dernier à sa succession. La passation s'est déroulée en présence des membres du bureau du Congrès, des chefs de groupe ainsi que des agents et de collaborateurs des élus. Dans sa prise de parole, Recomitant a rappelé ses mandats au Congrès, mais aussi ses défaites. Mais cela, a-t-il dit, fait partie de la vie politique.
Je ne dis pas que ça ne vous fait pas mal, hein. C'est une épreuve difficile à vivre quand on tombe de ces postes comme ça. Mais comme je suis habitué déjà à recevoir des coups, parce que comme je disais tout à l'heure, l'homme politique ou la femme politique, elle doit se forger une carapace pour pouvoir affronter et pouvoir résister aux coups que l'on reçoit. Parce que la politique, c'est une belle chose. Hein, la politique, on travaille pour le bien-être de la population. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est pas pour que les populations meurent de faim ou se révoltent, etc. Non, la politique, c'est d'abord pour ça, de gérer.
Lors de sa prise de parole, l'ex-président sortant a évoqué trois défis à relever pour Velma Falayo, celui de la paix, celui de la liberté et celui de la solidarité, recommandant qui décline toute responsabilité dans la violence insurrectionnelle et qui affirme ne pas comprendre que les partisans de la France et l'éveil océanien aient souhaité ce changement de présidence en raison de sa proximité avec la CCAT et de la politique qu'il a menée dernièrement.
Parce qu'ils ne me connaissent pas. Enfin, ils ont, comment dire, quand j'écoute les uns et les autres, ils s'expriment une sorte de délire sur ma personne. Mais demander aux gens de la base, moi je suis d'abord et avant tout un homme de paix, ce qui se passe sur Saint-Louis, ben, c'est ce qui se passe à lui, ça s'est passé comme ça. Ben, ce n'était pas Roi Guamita qui a lancé tous ces jeunes-là. C'est d'abord la suite, une suite logique, c'est une suite de ce que, disons, la CCAT a prévu. Ben, même la CCAT, quand nous sommes revenus de l'île des Pins, où le Congrès donc, avait chargé d'un certain responsable de mettre en place des actions de mobilisation de terrain, mais tout le monde a rappelé à l'île des Pins que c'était dans la paix et plus jamais 1984. Tout le monde a été surpris de la façon dont ça s'est transformé hein, le 13 mai et puis qu'on a connu jusqu'à ces derniers temps.
Après ce renouvellement du bureau du Congrès, Velma Falayo, la présidente du Congrès, appelle les élus à se rassembler pour redresser la Nouvelle-Calédonie.
C'était une cérémonie importante dans le contexte dans lequel nous sommes. Importante parce que maintenant, il faut qu'on regarde la suite. Et la suite, c'est la volonté des uns et des autres à travailler et redresser le pays. Beaucoup d'émotions, mais j'aspire à faire en sorte que les choses avancent et que l'institution qu'est le Congrès puisse renouer les dialogues, trouver le consensus nécessaire pour tous les défis qui nous attendent. Aujourd'hui, il faut aller chercher une unité sur les différents enjeux qui nous attendent. Cette unité de reconstruction, cette unité de redressement, puisqu'aujourd'hui les Calédoniennes et les Calédoniens souffrent et qu'ils attendent en tout cas que les politiques que nous sommes, les élus, prennent les responsabilités afin de faire en sorte que les choses avancent.
La cérémonie s'est clôturée par un échange en tête-à-tête entre l'ex-président Roch Guamitan et la nouvelle présidente Velma Falayo dans le bureau de la présidence. Une conférence de presse du FLNKS ce matin à Ndambéa. Le bureau politique du Front souhaitait réagir à l'élection de Velma Falayo à la présidence du Congrès et à la décision de la province sud de fermer pendant 4 jours les services provinciaux à l'île des Pins. Gilles Ménage.
Une conférence de presse en 3 points et en 3 points seulement, car toute autre question sur le congrès du FLNKS, sur les relations entre l'UC et le Palika ou encore sur les discussions à venir à Paris n'était pas autorisée. Seul était possible l'ordre du jour, à commencer par la décision des élus non indépendantistes du Congrès qui, en reportant leur voix au deuxième tour sur la candidate de l'éveil océanien, ont permis l'élection de Velma Falayo à la présidence du Congrès. Décision qualifiée de déni de démocratie par Laurie Oumouni, porte-parole du bureau politique.
Pour nous, c'est un déni de démocratie, tout simplement parce que aujourd'hui, la première institution, elle a été démise d'un indépendantiste. Donc, ça fait 5 ans que le président Roch Guamitan est à la tête, en fait, de la première institution du pays. Et les dernières législatives ont montré que, effectivement, les indépendantistes étaient majoritaires dans le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve à voir cette présidence être évincée, en fait. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la droite anti-indépendantiste s'est alliée pour pouvoir porter la candidature de Velma Falayo à la présidence du Congrès.
L'éveil océanien avait soutenu le groupe UCFLNKS. Ils disent qu'ils avaient averti sur un certain nombre de choses qui n'allaient plus à plusieurs reprises. Ils avaient envoyé des messages qui n'avaient peut-être pas été entendus. Comment vous analysez leur réaction ?
Finalement, ils sont restés quand même neutres dans leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de voter pour eux-mêmes. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est la droite qui s'est positionnée principalement pour les porter contre président Roch.
Le bureau politique du Front indépendantiste qui considère néanmoins que la crise sociale doit être désormais la priorité des élus. Les positions politiques doivent donc passer au second plan, estime Laurie Oumouni.
Je pense que chacun a compris qu'il fallait prendre ses responsabilités, que l'urgence sociale était importante et devait être résolue immédiatement. À un moment ou à un autre, on est obligé aussi de faire fi de nos positionnements politiques, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une population sous notre responsabilité et il faut effectivement répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes.
Ça veut dire qu'il y aura des majorités possibles en fonction des dossiers sur chaque sujet ?
Je pense, oui, effectivement, qu'il va y avoir des majorités qui vont se définir. On l'affirme encore encore aujourd'hui que la majorité océanienne, elle n'a pas été ébranlée, elle sera toujours confirmée, tout simplement parce qu'il y a des sujets sur lesquels on se retrouve pertinemment. Aujourd'hui, il est temps de se réconcilier avec la population, mais surtout de pouvoir trouver des solutions adéquates pour sortir de la crise actuelle.
Deuxième sujet autorisé ce matin, la décision de la province sud de fermer ses services sur l'île des Pins après l'agression de deux élus samedi à Cuteau, la première vice-présidente du Congrès, Virginie Ruffnac, et Laura Vandégout, élue du Rassemblement à la province sud et au Congrès. Si les faits sont condamnables, reconnaît le BP du FLNKS, la réaction de la province sud est disproportionnée, affirme Aloisio Sacco, le président du RDO.
Le FLNKS condamne toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Ça, c'est le premier point. Deux, il ne faut pas mélanger les gens. Il y a une justice qui doit, par rapport aux fauteurs de troubles, les traduire devant les tribunaux et donner les sanctions. Ça, c'est le rôle de la justice. Et là, on s'aperçoit dans cette affaire que la province sud, de manière unilatérale, a puni toute une population par rapport au fait que nous évoquons là. Il y a pour nous discrimination.
Aloisio Sacco qui a fait un parallèle avec l'incendie volontaire de la maison de Victor Tutugoro, le président de l'UPM à Païta, dénonçant le fait qu'alors la province sud n'avait pris aucune sanction.
Une conférence de presse au cours de laquelle les porte-paroles ont également évoqué une plainte déposée par des associations de femmes auprès de la gendarmerie pour le viol présumé d'une militante à Nouméa par les forces de l'ordre. Le procureur de la République Yves Dupas doit donner des précisions sur cette affaire dans la soirée. Cette agression de deux élus à l'île des Pins avait été fermement condamnée par le haut-commissaire dans un communiqué publié hier soir. Louis Lefranc évoque des actes inqualifiables d'une grande gravité. Il rappelle que les élus de la République fondent la représentation démocratique et que leur liberté de parole et de circulation sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont un pilier du vivre ensemble. Et à la suite de cette agression, la province sud a donc décidé de fermer ses services principaux à partir de demain jusqu'à lundi. Une décision qui interroge la grande chefferie de l'île des Pins. Dans un communiqué, elle condamne bien sûr l'agression des deux élus samedi dernier et les exactions commises ces dernières semaines sur l'île. Les autorités coutumières et l'ensemble des parties prenantes travaillent sans relâche pour maintenir un climat calme et apaisé, écrit la grande chefferie qui regrette de ne pas avoir été avertie de la visite des deux élus et qui juge disproportionnée elle aussi la décision de fermer temporairement les services provinciaux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la décision de la province sud de fermer les services provinciaux pendant 5 jours à l'île des Pins après l'agression dont ont été victimes samedi deux élus, Virginie Ruffnac et Laura Vandégout? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. C'est la réponse à notre question d'hier. 79% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'objectif premier de la taxe sur le sucre qui vient d'entrer en vigueur et d'augmenter les recettes fiscales. Ils sont 21% à penser à l'inverse, qu'elle a d'abord pour objectif la santé publique. Inat Nekanaki appelle à l'unité en vue de la déclaration de souveraineté des chefferies prévue le 24 septembre prochain à Marie-Michel Junesco.
Les chefferies membres de ce conseil indiquent vouloir en quelque sorte reconquérir une autonomie et une identité qui auraient été, selon Inat Nekanaki, perdues au moment de la colonisation. Le Conseil national des chefs demande au président Emmanuel Macron le renvoi du haut-commissaire Louis Lefranc et du procureur de la République Yves Dupas et proteste contre les interventions des forces de l'ordre sur les territoires des chefferies. Hippolyte Sinewami, le président d'Inat Nekanaki.
Dans la déclaration, c'est ni plus ni moins de réaffirmer en tout cas la souveraineté des royaumes, des grands chefs. Plus précisément aujourd'hui, depuis le 13 mai, où on voit que dans les discours en tout cas du haussaire et puis du procureur, la loi est faite pour tout le monde, que ce soit ici ou que ce soit en terre coutumière. Nous, on réagit aussi par rapport à tout ça aussi. On conteste parce que c'est nous qui faisons vivre la chefferie. Surtout que la souveraineté des chefferies, en tout cas au niveau terre coutumière, elle est garantie aussi par l'article 18 au niveau de la loi organique.
Mais alors pour vous, la loi de la République, elle ne s'applique pas sur le territoire des chefferies?
Elle ne s'applique pas ou elle devrait être complémentaire.
Et pour Inat Nekanaki, la reconnaissance de la pleine souveraineté des chefferies va leur donner la forme d'une entité juridique pleine et entière qui leur permettrait notamment d'aller chercher des financements ailleurs, comme par exemple chez les voisins du Pacifique.
On arrive à ce constat de dire que si la France ne nous aide pas, si la France ne fait rien pour nous, on n'a plus rien à faire avec la France aussi. Donc c'est dans la gestion de notre quotidien, on n'a pas eu de moyens. Même si on a la mairie, même si on a les provinces, mais la gestion coutumière que nous avons, elle n'est pas adaptée aussi à cette gestion. Donc si la France ne nous reconnaît pas, je veux dire en tant que souverain, si les moyens ne sont pas là, on ira demander autre part, quoi.
Hippolyte Inewami, le président d'Inat Nekanaki, les chefferies d'Inat Nekanaki qui veulent donc donner forme sur leur territoire à une organisation sociale et économique qui leur serait propre et qui appelle de leur vœu, je cite, une protection internationale immédiate. Des journalistes originaires de différents pays ont été conviés à la journée du 24 septembre qui se déroulera donc à Gouetchaba sur l'île de Marais.
Le président de la République garde la main sur le dossier calédonien. C'est la conviction de Sonia Backès qui s'est entretenue pendant plus d'une heure hier soir pour nous avec le chef de l'État, Elisabeth Noir.
Plus d'une heure d'entretien en tête-à-tête avec le président de la République pour la présidente de la province sud qui a dressé le portrait d'une Nouvelle-Calédonie au bord du chaos économique et social. Il a aussi été question d'ordre public, bien sûr, et Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude pour la situation à Saint-Louis. Il a annoncé une réunion la semaine prochaine pour essayer de régler la situation. Dans le domaine économique, le président de la République a évoqué, au-delà des aides d'urgence, la possibilité d'investissements publics importants. Et puis Sonia Backès a également parlé avec le chef de l'État de la situation politique calédonienne.
On a abordé évidemment la difficulté liée à la division du camp indépendantiste et à l'extrémisation de la partie UCCCAT avec la nomination sans doute non conforme de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Il m'a indiqué vouloir s'occuper du dossier en direct avec le soutien du président du Sénat et de l'Assemblée nationale parce que je crois que c'est un dossier qui d'une part lui tient à cœur et d'autre part dans la situation d'inconnu gouvernemental, je pense que c'est rassurant pour la Nouvelle-Calédonie. Il veut reprendre le dialogue politique sans doute dans les prochaines semaines. Je le laisserai évidemment s'exprimer sur le sujet pour remettre autour de la table les uns et les autres. Bon, il est conscient de la difficulté à trouver une solution.
L'occasion pour Sonia Backès de présenter au chef de l'État le projet institutionnel sur lequel travaillent les partisans du maintien dans la France.
J'ai abordé avec lui la nécessité de mettre en place une solution qui permette une forme de fédéralisme interne, c'est-à-dire que chaque collectivité puisse développer son propre projet de société compte tenu de la situation et de revenir à l'esprit des accords de Matignon en 88 où chacun, là où il est majoritaire, peut développer son projet de société. Puis on a longuement abordé également la situation internationale avec les ingérences de l'Azerbaïdjan et puis la mission du Forum des îles du Pacifique qui m'a indiqué avoir bien cadré pour éviter qu'on puisse avoir une mission qui vienne encore rajouter de l'huile sur le feu d'une situation calédonienne déjà très compliquée.
Actualité politique et relations internationales au menu donc de cet entretien au cours duquel le président de la République a confirmé sa volonté de réunir les acteurs politiques calédoniens à Paris fin septembre ou début octobre. Sonia Backès ajoute que le président de la République lui a confirmé sans ambiguïté sa volonté que soit respecté le résultat des 3 référendums et la nécessité de rechercher une solution de très long terme pour la Nouvelle-Calédonie.
Sonia Backès qui va rentrer prochainement sur le territoire après ce séjour à Paris au cours duquel elle a eu de nombreux rendez-vous avec des personnalités politiques. Elle a notamment rencontré l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet avant d'être reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. L'État poursuit son soutien au territoire. Depuis l'insurrection de mai, le ministère du Budget et des Finances aide à la fois les institutions et le monde économique avec le financement du chômage partiel ou encore la mise en place d'un fonds de solidarité de l'État pour les entreprises. Fin août, cette intervention représentait 35 à 40 milliards de francs injectés dans l'économie calédonienne par la France. Des dispositifs qui sont prolongés avec une nouvelle enveloppe de 16 milliards de francs. C'est ce que nous a annoncé ce matin Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat.
Tous les dispositifs, que ce soit sur le premier axe qui est le soutien aux collectivités ou sur l'autre qui est le soutien aux entreprises, l'aide de l'État se poursuit sur ces deux axes. Sur l'activité partielle, qui était un dispositif extrêmement coûteux, nous savons déjà 100 millions d'euros, 12 milliards de francs pacifiques, ont été versés à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça signifie une prolongation de 2 mois des dispositifs d'aide. Le dispositif est reconduit à l'identique, c'est-à-dire que le plafond qui est pris en considération reste à 2,5 SMG. Sur le fonds de solidarité aux entreprises, là aussi, il y a une prolongation sur le mois d'août. C'est un dispositif qui est coûteux, qui va coûter donc 20-25 millions d'euros supplémentaires, environ 2,5 milliards à 3 milliards de fonds passifs supplémentaires. Et puis, sur l'autre axe, sur le soutien aux collectivités et aux services publics, il y a là une aide de 6 milliards de francs pacifiques qui est en grande partie fléchée sur le soutien à la CAFAT et au RUAM, notamment pour que eh bien, la collectivité puisse verser au RUAM et donc derrière aux hôpitaux l'argent dont ils ont besoin pour fonctionner. Donc ce soutien de l'État, il est indéfectible, et il est également indéniable et il se poursuivra.
Pour les premières aides, l'État n'a pas demandé de contrepartie, mais pour la deuxième phase du soutien, Paris insiste pour que la Nouvelle-Calédonie adopte des réformes structurelles sur un certain nombre de sujets.
La suite de ce soutien devait accompagner un mouvement de réforme que devait accomplir le territoire. Pas parce que l'État est méchant, mais tout simplement parce que le territoire en a besoin. Ces réformes, elles sont connues depuis longtemps, elles sont indispensables à la bonne marche du territoire. Alors, il y a des premiers efforts et des premières réformes qui ont été adoptées. Je pense notamment à NRCAL, je pense à la CLR. Ce sont des réformes qui sont courageuses, qui ont été beaucoup trop longtemps différées. Pour la CLR, c'est la même chose. Ce sont des systèmes qui sont en déséquilibre depuis des années et des décennies. Il faut poursuivre ce mouvement. Alors le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est engagé dans une démarche dite S2R, vous savez, reconstruction, refondation. C'est une démarche que nous souhaitons accompagner sur un plan financier, que nous souhaitons accompagner sur un plan technique. Et donc l'aide de l'État ne sera pas apportée à fond perdu. Il faut que ce système calédonien évolue. Pour nous, de notre côté et du côté de l'État, on ne veut pas dicter une réforme. On espère que des effets à obtenir seront recherchés. Après, en quoi consiste la réforme? Ça sera aux acteurs calédoniens d'en décider.
Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat. Beaucoup de bâtiments publics ont été victimes des exactions et l'État va investir dans leur reconstruction avec une priorité donnée aux établissements scolaires détruits ou endommagés. C'est ce que nous a encore dit le secrétaire général du Haut Commissariat. La crise économique générée par les émeutes et ses conséquences sur le marché immobilier, ce sera le thème des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu demain midi. Jean-François Bonnin recevra notamment Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération des agences immobilières, et Maître Élise Mougel, la présidente de la Chambre territoriale des notaires en Nouvelle-Calédonie. 18h07, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On se rendra d'abord à la Conception où la population semble petit à petit déserter le quartier. On se retrouve tout de suite après une page de pub.
Depuis 50 ans, la BNC participe activement au développement économique de notre territoire. Tous les jours, nous vous accompagnons dans votre vie quotidienne. Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble vos projets d'avenir. Depuis 50 ans, nous sommes la Banque de Nouvelle-Calédonie. Et votre histoire, c'est notre histoire.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Après une journée compliquée pour les forces de l'ordre hier au Mont d'Or, aujourd'hui semble avoir été plus calme, notamment du côté de Saint-Louis et de la Conception. La Conception qui subit régulièrement des exactions depuis le début des émeutes, Léo Fichou.
Difficile de reprendre le cours de sa vie quand les magasins alentours ont été pillés, voire même brûlés. Aujourd'hui, l'axe principal de la Conception est déblayé, mais ça n'a pas toujours été le cas. En conséquence, les habitants ont déserté la zone, faute de sécurité suffisante. Yann est kiné au centre de soins Sud Santé. Ce centre médical existe depuis plus de 20 ans et accueille plusieurs corps médicaux en son sein. Si le médecin généraliste a vu son cabinet entièrement détruit, le cabinet de Yann n'a subi que peu de dégâts, lui permettant de reprendre rapidement son activité. Mais le constat est bien là, la population n'est plus au rendez-vous. On écoute Yann.
La zone est sinistrée. Hein. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui étaient très surpris qu'on soit ouvert, parce que pour eux, la rue qui dessert la pharmacie et le centre médical, c'est zone de guerre. Quoi. Ça a été zone de guerre véritablement pendant des semaines, avec des opérations de gendarmerie mobile à nos portes, des tirs de bibiche d'un côté, des ripostes au gaz lacrymogène de l'autre, des grenades de désencerclement. Et puis, moi, j'ai quand même des impacts de balles dans mes fermer les baies vitrées. C'est pas forcément super encourageant pour que les gens aient envie de fréquenter l'établissement, quoi.
Cette baisse de fréquentation a des conséquences directes sur le travail de certains salariés du centre médical qui sont désormais au chômage partiel. Une situation compliquée pour les professionnels mais aussi pour les habitants. Michaela vit à la Conception depuis de nombreuses années et pour elle, il y a un avant et un après le 13 mai.
Ma vie a beaucoup changé. J'ai toujours la peur au ventre et quand je viens chez le kiné, je me demande est-ce qu'il faut que j'y aille ou quoi, parce que je pleure à la maison parce que je me dis que c'est pas possible que la vie elle est arrivée comme ça, quoi. On se demande les accès s'ils vont être libres ou quoi. Alors moi ça me stresse premièrement parce que tout a changé dans ma vie, aussi bien mentalement que physiquement. Je vois les choses différemment. Ah, je garde espoir et je regarde toujours sur Facebook ce qui se passe et tout. Mais pour moi la vie elle s'est arrêtée là. Mais comme Yann y dit, la vie elle continue, Michaela. Bon, je dis ben c'est d'accord.
Du côté de Saint-Louis, le verrou de la gendarmerie est toujours en place. Seuls les habitants de la tribu de Saint-Louis donc peuvent circuler à pied.
À Thio, tous les établissements scolaires rouvrent leurs portes de manière dégradée car la commune connaît encore de vives tensions à ce jour. Une cellule de crise entre la mairie et les services de gendarmerie s'est ouverte la semaine dernière, cellule au cours de laquelle il a été décidé la réouverture de tous les établissements scolaires. Hier et ce matin au collège La Colline de Thio, ce sont les enseignants qui ont fait leur rentrée. Demain et vendredi, ce seront les élèves qui rentreront en mode dégradé, explique Badrizaman Messelem, le directeur de l'établissement.
Dans un premier temps, ce qu'on appelle en mode dégradé, sur des jauges de demi-journée pour le collège, et ensuite sans transport scolaire. Et l'idée, c'est d'essayer de dégager les axes routiers tout au long du trajet où habitent les élèves. Mais ça, c'est en négociation avec les membres de la CCAT et les gens qui mettent ces barrages. On a une perte des effectifs. 15% des élèves ont quitté le collège, donc il fallait à tout prix arrêter la saignée. Hein. La continuité pédagogique, c'est très très limité, surtout pour le public qu'on a ici à Thio. Les élèves n'ont pas forcément accès à Internet. Distribuer les livrets qu'on avait préparé, c'était compliqué. Et malheureusement, les élèves les plus fragiles qui ont besoin de la présence d'un adulte, voilà, là, c'est vraiment la limite de la continuité pédagogique. On a des élèves qui décrochent scolairement, qui ne suivent plus. Et ça se voit avec le travail qui n'est pas rendu et la qualité aussi du travail qui est rendu. Il y avait vraiment urgence à reprendre en présentiel. La continuité pédagogique en distanciel fonctionne pour les bons élèves et les élèves qui ont une structure familiale et un accès à Internet. Pour les élèves les plus fragiles, c'est désastreux, hein, c'est catastrophique.
Une première rentrée se fait donc cette semaine à partir de demain pour les élèves sans transport scolaire et sans service de cantine pour des soucis de carburant et ou de route encore bloquées. Dès lundi, le collège La Colline rouvrira ses portes normalement aux horaires habituels de 8h à 16h. Au chapitre des faits divers, à Nouméa, la concession Mazda de la vallée du Tir à nouveau incendiée. Aujourd'hui, pour rappel, à la mi-mai, un feu d'origine criminelle avait touché le bâtiment. Aujourd'hui, ce sont des détritus qui ont été brûlés dans la concession. Cette concession qui se trouve en zone dite rouge. Les pompiers ont donc été épaulés par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui mènent actuellement une enquête pour tenter de retrouver les personnes à l'origine de l'incendie.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h13.
Les boîtes mail Lagoon, à nouveau accessibles depuis hier soir. Les équipes techniques continuent de relancer les services. Le fournisseur d'accès à Internet a été victime d'une cyberattaque d'ampleur le 20 août dernier et n'a pas pu bénéficier de ses sauvegardes puisque son data center a brûlé lors des émeutes. Le processus de retour à la normale prend donc du temps. Stéphane Matteo, le directeur général de Lagoon.
On attend encore quelques vérifications d'usage pour l'annoncer officiellement dans la journée, mais on a relancé les boîtes mail hier soir. Alors, une partie des mails envoyés ont été récupérés. À un moment donné, ces boîtes mail n'étant plus accessibles, les expéditeurs de courrier, de courriel, ont reçu une notification comme quoi l'email ne pouvait pas être délivré. Donc, ces emails-là n'ont pas été acheminés dans la boîte mail destinataire de nos clients. Donc, c'est pas de l'email perdu, c'est à l'expéditeur de renvoyer. Nous avançons service par service, client par client. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on remet un service en place, on rajoute bien sûr des processus de sécurité supplémentaires. Donc ça demande énormément d'étapes de validation qui ralentit bien sûr la mise en service.
Plusieurs semaines de travail seraient encore nécessaires pour pouvoir relancer tous les services. Du côté des investigations, des pistes sur l'origine de la cyberattaque semblent se dégager. Mais l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information poursuit son travail. Quand la science part à la rencontre du grand public, c'est l'un des objectifs des doctorales organisées demain par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une dizaine de doctorantes et de doctorants présenteront leurs travaux de recherche, mais avec un but, rendre leurs travaux compréhensibles par le plus grand nombre. C'est ce que nous a expliqué Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale, qui était notre invité dans le journal de la mi-journée.
Les jeunes devront présenter leurs travaux de recherche, mais pas sous la forme d'un séminaire de recherche. Il faut que le message soit accessible à des non-spécialistes. Ce que j'ai souhaité, c'est que ces doctorales puissent être pour eux l'occasion de se faire connaître au-delà du monde académique. Donc le jury est à parité entre le monde académique et le monde économique et institutionnel. Voilà, il y a trois prix, d'accord ? Le prix du meilleur exposé d'étudiants en première année, du meilleur exposé d'étudiants en deuxième année et au-delà, et un troisième prix sur la valorisation potentielle de ces travaux de recherche. C'est un exercice pour le doctorant, ça participe à sa formation, savoir se présenter ses travaux en public. Et puis, c'est aussi porter la connaissance vers la société civile.
Ces doctorales se dérouleront en deux temps. Une partie des doctorants présentera ses travaux à l'UNC à l'Amphiguéaniel à partir de 9h. Et l'après-midi, à partir de 13h30, c'est à l'auditorium de la CCI que se poursuivront les présentations. Que ce soit à l'UNC ou la CCI, ces doctorales sont ouvertes à tout public. Comment préparer sa fin de vie? Comment est organisé le réseau de soins palliatifs en Calédonie? Le forum des soins palliatifs et des associations de santé aura lieu demain sur le site de l'ACH à Nouville. Un moment de réflexion, d'échange, mais aussi de cohésion entre les associations concernées, dont nous parlerons demain matin à 7h30. Notre invitée sera en effet Claire Binsa, l'une des infirmières coordinatrices du réseau de soins palliatifs.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Le 4 septembre 2024 marque les 250 ans de la découverte de la Nouvelle-Calédonie par le Britannique James Cook et son équipage. C'est par hasard, au nord de la Grande Terre, qu'il découvre d'abord l'archipel, le 4 septembre 1774, lors de sa deuxième expédition dans le Pacifique. Le lendemain, il y jette l'ancre. Aujourd'hui, c'est la commune de Bouraille qui commémore les 250 ans de cet événement avec les élèves de différentes écoles. Patrick Roblin, le maire de Bouraille.
Notre professeur d'histoire et adjoint à la mairie de Bouraille, M. Houdan, Olivier, a préparé un jeu avec 10 questions et 10 classes, des classes de CM1 et 6e ont été invitées. C'est très important pour nous parce que de plus en plus on se rend compte que les événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie, notre jeunesse ne les connaisse pas. C'est important qu'ils puissent se situer aussi dans le temps. Pour cela, il y avait une frise historique qui a été faite par des bénévoles qui part de 1774 à 2024, bien sûr, où on trouve la découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook, mais beaucoup d'autres événements. Et à travers toutes ces informations-là, les élèves ont dû répondre à une dizaine de questions à partir de textes, à partir des informations qu'ils pouvaient collecter par-ci, par-là.
Le 24 septembre 1853, l'amiral Auguste Février dépointe hissé le drapeau tricolore à Balade. Le 24 septembre 2024 marquera donc les 171 ans de l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la France. 18h18, on marque une deuxième pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. On parlera de foot local et puis bien sûr des Jeux paralympiques. On se retrouve tout de suite après la pub.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, l'actualité du football à la une du sport. La Fédération calédonienne présentait aujourd'hui son projet Élite Excellence, Mickaël Juneski.
Alors que les sélections des moins de 17 ans et des moins de 20 ans ont décroché leur place aux mondiaux de leur catégorie d'âge en 2025, l'équipe A lancera sa campagne qualificative au mois d'octobre et les féminines des moins de 16 ans disputeront le tournoi OFC à partir de lundi. C'est donc l'occasion pour la Fédération de faire un point d'étape sur les des chantiers qui ont porté leurs fruits et sur les perspectives futures. Le projet Elite, afin d'accompagner nos représentants vers le haut niveau. Les axes de travail ont déjà été identifiés. Dominique Ouachali, le directeur technique fédéral.
L'un des points clés, ça a été la qualification en 2017 de cette première génération pour la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se représenter tous les ans? Parce qu'aujourd'hui, les opportunités, elles sont énormes pour toutes les générations, notamment un gamin de 14 ans, il peut rêver d'être en Coupe du Monde. Je pense que pour franchir encore des paliers, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le développement. Détecter plus tôt, c'est à l'âge de 10-11 ans, et orienter, sécuriser sur nos académies qui nous permet d'avoir derrière des joueurs de sélection prêts, en s'entraînant toute l'année avec les meilleurs. Aujourd'hui, on est sur ça, on a encore beaucoup de travail, notamment sur cette nouvelle réflexion de mettre le pôle élite. Tous les ans, nos U17 vont participer à des qualifs Coupe du Monde, que ce soit au niveau des filles et au niveau des garçons. Donc on a tout intérêt à bien travailler au niveau de nos programmes de détection, à bien mieux structurer nos académies pour avoir encore une chance dans les années à venir d'avoir un peu plus la possibilité de donner encore plus de chances à nos sélections de se qualifier tous les ans et pourquoi pas d'essayer dans cette phase de groupe de gagner au moins un match, faire une bonne figuration dans ces Coupes du Monde.
Plusieurs joueurs des sélections ont eu l'occasion de briller et pour certains d'entre eux de rejoindre la métropole. Nos représentants ont surtout l'opportunité chaque année de pouvoir tenter de se qualifier pour une Coupe du Monde grâce au travail qui a été fait pour mettre les Calédoniennes et les Calédoniens aimant performer dans le football dans les meilleures conditions. Kanjo Tenyuen est le capitaine de la sélection des moins de 19 ans qui disputera donc le mondial des moins de 20 ans l'année prochaine.
C'est plutôt une bonne chose pour tous les footballeurs ici vu le contexte actuel. C'est pour ramener les joueurs qui sont dans les barrages, quoi. Reprendre le sport, tout ça. Le sport avant tout, ça peut amener en métropole, tout ça aussi.
La mise en place des académies fédérales a fait pour beaucoup dans ce développement vers le haut niveau, mais aussi l'instauration du championnat fédéral jeune et l'accompagnement des sections sportives. Les instances du ballon rond calédonien souhaitent consolider le travail qui a été mené les années passées. Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne de football.
C'était une manière aussi de reconnaître le travail fait par nos techniciens, montrer aussi que quelque part, il faut travailler, il n'y a que le travail qui paie. Et aujourd'hui, si on reste lancé dans cette optique de la FIFA avec ce programme du développement des talents, je pense qu'on est dans le vrai. C'est surtout œuvrer pour notre jeunesse. Il faut être ambitieux dans le football. Avec ce projet du TDS, il ne faut pas se louper. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut poursuivre le travail et pour le poursuivre, il faut suivre les directives de la FIFA.
Et malgré les conditions actuelles qui compromettent la pratique du football, la Fédération veut poursuivre le travail dans un plan de perfectionnement et d'accompagnement des talents du ballon rond et enfin continuer les démarches pour trouver des sponsors pour suivre les aventures des équipes de Calédonie en Coupe du Monde.
Merci Mickaël Juneski. Nous ouvrons maintenant notre page spéciale Jeux Paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
La suite des Jeux Paralympiques et déjà deux nouvelles médailles pour la délégation française en cette fin de journée, Léo Fichou.
En cyclisme sur route, Alexandre Léauté était là pour l'or et il l'a fait. Le Français remporte le contre-la-montre dans la catégorie C2 et donc par la même occasion sa troisième médaille sur ces Olympiades après l'or et le bronze en cyclisme sur piste. Nouvelle médaille aussi pour Heidi Gauguin. Elle termine à seulement 4 secondes de la superstar Sarah Storé et décroche donc l'argent. Marie Patouillet termine elle 5e.
Des médailles, il y en aura d'autres ce soir et cette nuit, avec notamment un Calédonien, Léo.
Pierre Ferbank participe ce soir à sa deuxième épreuve lors de ses Olympiades à Paris. Il sera au départ des séries du 100 mètres fauteuil ce soir et on l'espère en finale dans la nuit. Une revanche pour le natif de Yengen après avoir terminé 6e de la finale du 400 mètres fauteuil lundi. On écoute Olivier Degnaud, coach des athlètes handisport calédonien. Il est à Paris aux côtés de Pierre Ferbank.
Pour l'instant, c'est sûr que Pierre, il est un peu déçu de sa 6e place parce que la médaille était envisageable à l'issue des séries. Il fait 2 secondes de moins, c'est sa meilleure perf de l'année avec 49-10 en série le matin. Après, les autres, c'est des avions de chasse. Le truc, c'est que, pris par l'enjeu, il s'est boosté avec les spectateurs. C'est sûr que le Stade de France, ça transforme en général et les Français sont vraiment à fond derrière chaque athlète de chez nous.
La série du 100 mètres fauteuil au Stade de France avec donc le Calédonien Pierre Ferbank, c'est à suivre à 20h38, heure de Nouméa. En cas de qualification pour la finale, il faudra se lever au milieu de la nuit. Le départ sera donné à 4h14.
On jette un coup d'œil au reste du programme de la soirée et de la nuit.
Et on démarre donc donc avec le cyclisme sur route. C'est la journée des épreuves de contre-la-montre qui a démarré avec la médaille d'or d'Alexandre Léauté, je le disais, mais aussi la médaille d'argent d'Heidi Gauguin juste avant 18h. Au total, 16 Français sont alignés sur les 19 épreuves. En tennis de table, Fabien Lamiro est déjà assuré de repartir de Paris avec une médaille, la 8e de sa carrière. Mais le parapongiste devra battre le Tchèque Jiří Suchánek pour disputer la finale. Il est en demi-finale ce soir. À noter également que Flora Vautier, Lucas Didier et Maxime Thomas font partie des 6 Français engagés en quart de finale du tennis de table. En paranatation, cette fois, Kylian Portal sera de retour dans les bassins, mais sans son frère cette fois. Médaillé de bronze juste derrière Alex sur le 400 mètres nage libre. Il est aligné ce soir sur le 100 mètres nage libre également. Et puis en tir sportif, on peut s'attendre à la passe de 3 pour Tanguy de la Forêt. Déjà médaillé d'argent et d'or, le paratireur participe à sa 3e épreuve, le tir couché à 50 mètres. Rendez-vous à 21h30 pour les qualifs et à minuit pour la finale potentielle. Et puis à suivre également les finales de para-haltérophilie avec des Français, les épreuves de para-équitation, mais aussi du tennis fauteuil à Roland-Garros avec la demi-finale de la paire Stéphane Houdet et Frédéric Cataneo.
Et on termine cette page consacrée aux Jeux paralympiques avec le classement des médailles.
Et la France pointe à la 5e place avec un total de 40 médailles désormais, 12 en or, 13 en argent et 15 en bronze. C'est encore et toujours la Chine qui est en tête avec 115 podiums, dont 53 titres paralympiques. La Grande-Bretagne est deuxième et enfin les États-Unis complètent le podium.
Merci Léo Fichou.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Il est 18h26, c'est presque la fin de ce journal. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit en soirée, les nuages domineront et apporteront encore quelques gouttes sur le sud de la Grande Terre et des Loyautés. Des éclaircies reviendront progressivement et s'imposeront ensuite. L'alizée s'orientera progressivement au secteur sud-est entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds localement sur le nord-ouest, plus de 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 40 nœuds. Il sera un peu moins fort sur la côte est où il soufflera de 10 à 15 nœuds. Les températures seront toujours en légère baisse. Elles évolueront entre 15 et 19 degrés en général, localement de 10 à 14 degrés dans l'intérieur et marée. Demain matin, retour d'un temps sec, le soleil dominera sur le nord, alors que des nuages bas remonteront sur le sud de la Grande Terre et des Loyautés et viendront contrarier l'ensoleillement. L'alizée de sud-est se maintiendra autour de 20 nœuds sur le sud et les Loyautés, localement 20 à 25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds sur le nord-ouest. Sur la côte est, il sera plus faible de 15 à 20 nœuds, Isabelle.
Merci Nicolas pour votre accompagnement technique et pour cette météo qui met un terme à ce journal.